Vous écoutez RFI, les 20h à Paris, 19h en temps universel et 22h à Mamoudzou.
Guillaume Ouattara.
À la une de ce journal, en Syrie, le vent du changement souffle sur Damas. Najib Mikati, premier ministre libanais, signe sa première visite officielle depuis 2011. Une rencontre avec le président Hamad al-Sharr pour tourner la page Assad et poser les bases d'un rapprochement stratégique. Aux États-Unis, Mark Zuckerberg en croisade anti-woke. Après avoir supprimé le fact-checking, le patron de Meta s'attaque à la diversité en entreprise, alignant un peu plus son groupe sur la rhétorique conservatrice de Donald Trump. Dans le même temps, les flammes de l'enfer ravagent Los Angeles. 11 morts, 15 000 hectares brûlés et des quartiers entiers réduits en cendres. Dans ce journal également, la mort au bout du voyage. Un jeune Syrien de 19 ans est décédé dans le Pas-de-Calais en tentant de rejoindre l'Angleterre, symbole des tragédies migratoires toujours plus nombreuses. En Belgique, comme un parfum de controverse, à Anderlecht, deux écoles refusent de participer à une commémoration de la Shoah, évoquant les tensions liées à Gaza. Une décision qui embrase le débat public. Enfin, notez que Mayotte vient tout juste de passer en alerte cyclonique rouge. On y revient dans cette édition. On ouvre donc avec la Syrie. Première visite officielle d'un premier ministre libanais à Damas depuis le début de la guerre en 2011. Ce samedi, Najib Mikati a rencontré Hamad al-Sharr, le nouveau président syrien, pour aborder des dossiers majeurs, le retour des 2 millions de réfugiés, la délimitation des frontières, mais aussi des questions sensibles comme les Libanais disparus sous le régime de Bachar al-Assad et les épargnes syriennes bloquées au Liban. Les deux dirigeants ont affirmé leur volonté de construire des relations stratégiques basées sur le respect mutuel et la souveraineté. Explication signée Paul Ralifé.
Lors d'un point de presse commun avec Hamad al-Sharr, Najib Mikati a déclaré qu'il est devenu urgent et dans l'intérêt des deux pays de résoudre rapidement le dossier des réfugiés et de permettre leur retour en Syrie. Le premier ministre libanais a précisé que la présence syrienne au Liban exerce une forte pression sur tous les domaines dans le pays. Autre dossier prioritaire pour Beyrouth, la délimitation des frontières. Najib Mikati a souligné qu'il est impératif de contrôler la frontière afin d'arrêter toute opération de contrebande entre le Liban et la Syrie. Le chef du gouvernement a en outre soulevé avec Hamad al-Sharr la question des Libanais portés disparus dans les geôles du régime déchu de Bachar al-Assad. Il a obtenu des nouvelles autorités syriennes la promesse d'une enquête sérieuse comprenant des tests ADN après la remise par le Liban d'une liste des noms des disparus. Hamad al-Sharr a pour sa part soulevé avec son hôte la question des épargnes des ressortissants syriens au Liban estimée à plusieurs milliards de dollars. Tout comme les Libanais, des milliers d'hommes d'affaires et de riches Syriens ont vu leurs comptes bancaires bloqués et dévalorisés du fait de la crise économique et financière qui a frappé le Liban. Paul Khalife, Beyrouth. RFI.
Aux États-Unis, les incendies continuent de ravager Los Angeles. 5 jours après leur déclenchement, le bilan s'alourdit, au moins 11 morts, plus de 12 000 bâtiments détruits et 15 000 hectares partis en fumée. Ces feux pourraient être les plus coûteux jamais enregistrés, entre 135 et 150 milliards de dollars. Des militaires ont été déployés pour assurer la sécurité dans les zones évacuées. Mais les incendies échappent encore largement au contrôle des pompiers. David Acuna, porte-parole de Cal Fire, le département de la protection des forêts et des incendies de Californie, explique que seulement 11% du Palisades Fire et 15% de l'Eaton Fire sont sous contrôle. Il est joint pour RFI par Paul Inglaise.
Last night we had winds coming from the ocean.
Ce qu'il se passe, c'est que la nuit dernière, les vents sont venus de l'océan. Quand ça a commencé mardi, les vents venaient des montagnes. Résultat, le feu va dans l'autre direction et il se propage davantage. Cela dit, l'un des problèmes que nous avons rencontrés, c'est que nous ne pouvions pas utiliser les forces aériennes à cause de ces vents violents. Maintenant qu'ils se calment, nous pouvons faire voler les engins. Donc en fait, maintenant nous pouvons mettre en œuvre la bonne stratégie. Mais avec cette superficie et tout ce qui a déjà brûlé, y compris les maisons, c'est très dangereux. Nous sommes habitués à nous battre contre des feux de végétation, mais quand il y a des maisons qui sont pleines de toutes sortes de plastiques, qui sont une forme de pétrole, eh bien, cela rend les choses beaucoup plus difficiles et dangereuses. Ces feux sont également très difficiles à combattre car ils surviennent en janvier. Habituellement, on a les équipes au complet en juillet. Et ensuite, on en a moins pour être prêt pour la saison des feux suivantes. Mais là, on a une année et non plus une saison des feux. On en a eu en décembre, maintenant en janvier, et ça, c'est très inhabituel pour nous.
David Acuna au micro RFI de Pauline Glaise. Aux États-Unis, toujours, Elon Musk fustige l'Europe qu'il qualifie de tyrannie, tandis que Mark Zuckerberg aligne Meta sur une ligne conservatrice. Après avoir supprimé le fact-checking et assoupli la modération sur les contenus liés aux femmes ou aux personnes LGBT+, le patron de Facebook met fin à la discrimination positive à l'embauche. Il dénonce des politiques de diversité qu'il juge excessives. Une décision qui rapproche encore Meta de la rhétorique anti-woke de Donald Trump. Les précisions de Marie Leveugle.
Mark Zuckerberg continue son virage politique, en interne cette fois, au sein même du groupe Meta. Le géant des réseaux sociaux a décidé de mettre fin à ses engagements pour améliorer la diversité au sein de l'entreprise. Des engagements dits de diversité, d'équité et d'inclusion qui visaient à favoriser l'embauche des femmes ou des minorités sous-représentées dans les grandes entreprises. Le patron de Meta a exprimé sa vision des choses dans un podcast conservateur très populaire aux États-Unis.
Une chose de dire que l'on veut créer un bon environnement, accueillant pour tout le monde, mais je pense que ça va un peu trop loin. À mon sens, une grande partie de la culture d'entreprise est devenue un peu émasculée. Il y a quelque chose de bon dans la masculinité. Je pense qu'une culture qui valorise l'agressivité a du mérite et c'est vraiment positif. Has its own merits
that are really positive. Même rhétorique que Donald Trump, qui critique ouvertement les programmes de diversité, d'équité et d'inclusion, en allant jusqu'à les présenter comme du racisme anti-blanc. Mark Zuckerberg multiplie les actions pour se rapprocher du président élu. Dernière illustration en date, la nomination de Joël Kaplan, un proche de Donald Trump, au conseil d'administration de Meta. Il a également promis de faire un don de 1 million de dollars pour l'entrée en fonction du président le 20 janvier prochain.
Un éclairage signé Marie Leveugle pour RFI. Il est 19h passé de 6 minutes en temps universel, 22h06 à Mamoudzou, Mayotte qui vient d'être placée en alerte rouge pour le cyclone Dikeledi. L'archipel français, déjà durement touché par le cyclone Chido en décembre, devrait subir de très fortes pluies et des vents violents, accentuant les risques d'inondations et de coulées de boue sur un sol déjà fragilisé. Des centres d'hébergement ont été rouverts pour accueillir des habitants. Dikeledi devrait passer à environ 75 km des côtes sud de Mayotte dans la nuit de samedi à dimanche, selon Météo France. En France toujours, une nouvelle tragédie dans la Manche. Un Syrien de 19 ans a perdu la vie samedi à Sangatt, c'est dans le Pas-de-Calais, lors d'une traversée en small boat. Premier décès en mer de l'année 2025 à la frontière franco-britannique. Il illustre les dangers de ces embarcations qui ont coûté 77 vies en 2024, un record. Cet après-midi, une marche à Calais a rassemblé plusieurs centaines de personnes pour dénoncer des politiques jugées responsables de ces drames. Flore Judé, coordinatrice à l'auberge des migrants, était présente dans le cortège. Elle est très en colère face à ce qu'elle qualifie d'inaction du gouvernement.
C'est pas la première victime de cette année 2025, puisqu'une personne est décédée mardi dernier sur l'autoroute A16. On ne connaît pas les circonstances, mais ce n'est pas la première victime. Ça lève de la colère, ça lève de la tristesse, ça montre la nécessité de se rassembler et d'être ensemble pour dénoncer ces politiques et de continuer à les dénoncer et de continuer à lever la voix contre les politiques qui poussent ces gens à mourir. Aujourd'hui, il faut qu'on mette en place des politiques d'accueil dignes et il faut des voies de passage sûres entre la France et le Royaume-Uni pour que les gens arrêtent de risquer leur vie à nos frontières.
Des propos recueillis par notre confrère d'ici Nord, Juan Cascon. En Belgique, vive polémique à Anderlecht, une commune de Bruxelles. Deux écoles ont refusé de participer à une cérémonie en hommage à des victimes de la déportation. Au cœur de cette décision, la crainte exprimée par les directions et certains parents de déplacer la guerre au Proche-Orient. Dans le contexte des tensions actuelles liées à Gaza, un choix qui a provoqué un tollé dans le pays, notamment parmi les défenseurs du devoir de mémoire. L'analyse de notre correspondante à Bruxelles, Elena Loison.
Oui, cela devait être au départ une cérémonie locale, un hommage en petit comité, l'installation de pavés en bronze au nom d'habitants du quartier déportés et assassinés en 1942, des pavés comme on en retrouve dans de nombreuses villes d'Europe. Mais la petite cérémonie a pris des allures de polémique nationale lorsque deux écoles conviées à participer ont décliné l'invitation en invoquant le contexte à Gaza. La classe politique belge s'est immédiatement emparée du sujet, les partis de droite dénonçant des pressions de parents d'élèves qu'ils accusent de communautarisme. De leur côté, les écoles comme la mairie réfutent les accusations de pression extérieure, mais reconnaissent avoir anticipé de potentiels problèmes et avoir considéré, je cite, « plus prudent d'inscrire la démarche dans une perspective pédagogique complète, en rappelant que des activités sont prévues dans le cadre des 80 ans de la libération d'Auschwitz le 27 janvier prochain. Finalement, les écoles ont dû rétropédaler face à la polémique. La cérémonie a bien eu lieu hier soir, en présence d'élèves et d'enseignants des deux établissements concernés.
Il est 19h quasi 10 en temps universel. Je vous rappelle l'information. Dick et Lady devraient passer environ 75 km des côtes au sud de Mayotte. Ce cyclone, Mayotte passe donc en alerte rouge cyclonique ce soir.